L'énigme du Pierre Mille par André Lichtenberger. Appuyé sur la rambarde, Jacques Vineuil, le romancier, suit d'un œil négligent le vol des mouettes tout en fumant un cigare. Ah, quel délice! Vide de pensée et d'effort de se laisser emporter paresseusement sur les flots. Oui, il était décidé, en quittant Madagascar, à utiliser le loisir de la navigation pour rédiger ses notes. Peut-être tracer le plan d'un roman. Qui sait? En jeter sur le papier les premières pages. Bon, au contraire, avec quelle douceur il s'abandonne à la volupté de ne rien faire. Et comme il se la justifie. Pendant ce temps, dans son inconscient, les souvenirs fermentent, surgissent, se distribuent. Écrire, plus tard, ce sera un simple décantage. Et puis zut, c'est trop rare de nos jours, trop amusant de simplement se laisser aller, accumuler des sensations harmonieuses, observer des types, regarder grouiller cette humanité disparate rassemblée au hasard à bord de cet hospitalier Pierre Mille, frère jumeau du Marcel Tiner de la ligne de Chine. Entre parenthèses, que ces noms attestant la reconnaissance des messageries maritimes pour la pointe donnée au goût du voyage par les lettres contemporaines sonnent agréablement à l'oreille d'un écrivain. Bateau excellent, cuisine irréprochable, personnel empressé, réunion de passagers exceptionnellement agréable et pittoresque. L'empressement du commandant, maître de maison irréprochable, est charmant. Il est admirablement secondé par M. Levrault, l'excellent commissaire de bord, si consciencieux, si appliqué, préoccupé du confort et du plaisir de chacun, quatrième au bridge, toujours souriant, plein d'histoire, n'en faisant pour rien. Souffrant au départ d'une légère insolation, il a été tout particulièrement touché des intentions du littérateur, qui a mis à sa disposition toutes les ressources de sa pharmacie et de sa bibliothèque de voyage. Assez cultivé et grand liseur, il fait ses délices particulières de romans policiers et d'histoires d'occultisme. Mais toute recherche intellectuelle le passionne, et il a très vite conçu pour le romancier une sympathie mélangée de déférence que l'autre lui rend cordialement. Toutefois, le regardant déboucher de l'escalier des premières, Jacques Vineuil se confirme dans l'idée que depuis 2 jours, le brave officier n'est pas dans son assiette ordinaire. Sur sa large face se trahit une expression préoccupée. Est-ce que par hasard il y a du grabuge dans le personnel? Ou la volaille manquerait? Ou les vins fins auraient-ils tourné? Au moment où M. Levrault vient de s'accouder sur le bastingage, une voyageuse s'avance vers lui et l'interpelle. Il l'écoute avec son bon sourire. Visiblement, elle lui parle avec animation, avec quelque indignation, dirait-on. Et le voici qui laisse échapper une exclamation, sans doute d'incrédulité. Elle insiste, il la calme. « Je vais procéder à une enquête, vous pouvez être certaine. » L'ayant salué, le commissaire reprend sa promenade. Quand il arrive à la hauteur du romancier, celui-ci l'avise à son tour. « Eh bien, commissaire, nous avons des grincheux à bord. » Monsieur Levrault a un geste vague, essaye de sourire et balbutie avec son léger accent marseillais. « Eh, qui ne l'est à son heure ?» Mais son expression distraite, absorbée, dément sa jovialité un peu volontaire. « Alors, ça ne va pas? Il y a des rouspéteurs? Je déclare d'avance qu'ils sont inexcusables. Pas tant que ça. » Et après un silence. « Bon, monsieur Vineuil, vous qui avez pour profession d'écrire des histoires où se nouent et se dénouent les intrigues les plus compliquées, vous allez peut-être pouvoir me dire ce que vous en pensez, me donner des conseils. Mais d'abord, n'est-ce pas, vous me jurez le silence. Le silence de la tombe, faut-il cracher par terre? Ne blaguez pas. À vrai dire, je me fais un sang de vinaigre, et vous me voyez bigrement embêté. Je vous écoute. Eh bien voilà. Il se passe à bord des choses déconcertantes. J'ai la charge de la vie administrative du bâtiment. Je me flatte qu'au départ, rien n'y clochait. État-major admirable, équipage excellent, éprouvé depuis plusieurs navigations, passager irréprochable. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à m'expliquer cette succession de délits, de bizarreries. Enfin, voici. Depuis 3 jours, j'ai reçu des plaintes de divers voyageurs. Ils disparaissent chez eux des objets. Celle qui s'est adressée à moi la première, c'est la petite madame de Grémont. On lui a, prétend-elle, dérobé un bracelet. C'est une gentillesse cervelée. J'ai promis des recherches, mais au fond, j'espérais qu'elle avait égaré le bijou, le retrouverait. Toutefois, le même après-midi, le révérend Wilson, venait me signaler qu'une boîte à cigarettes en argent manquait dans sa cabine. Le lendemain, le professeur Rabot ne retrouvait pas ses lunettes d'or. Deux ou trois larcins analogues étaient accomplis presque aussitôt dans les secondes. Hein ? Qu'en pensez-vous ? Eh bien, qu'il y a vraisemblablement un pickpocket, ou une bande de pickpockets à bord. Vous dites que ces disparitions ont commencé depuis 3 jours. C'est donc le lendemain de notre escale à Nocibé. Y avez-vous embarqué du monde ? Parbleu, ça a été ma première pensée. Un officier, de passagers de troisième dont il est impossible d'imaginer qu'ils aient pénétré en première. Rien de suspect, en conséquence. Et puis, s'il ne s'agissait que de larcins. Mais hier, Madame Wilson, oui, la propre épouse du clergyman, les lèvres plus pincées que jamais, m'a rapporté le bracelet de Madame de Grimont retrouvé dans la cabine qu'elle occupe avec son mari. Et de son côté, le père Antoine, le vénérable missionnaire, est venu, en baissant les yeux, me remettre une combinaison de femme en soie rose déposée sur son lit. Tiens, c'est plus singulier. Alors voyons, quelqu'un des matelots n'aurait-il pas par hasard embarqué une pie, un corbeau ? J'ai connu une histoire de ce genre qui avait affolé tout un hôtel. Tout disparaissait, on se méfiait les uns des autres, on devenait hargneux. On posait son revolver sur sa table de nuit. On finit par découvrir tout un butin hétéroclite accumulé dans une cage par Margot, la voleuse. Le commissaire secoue la tête. Il n'y a pas de Margot, je m'en suis assuré. Et puis les pies, à ce que je crois, n'écrivent pas le grec. Hein, le grec ? Mais oui, monsieur le professeur Sandre, de la faculté de Montpellier, a trouvé chez lui une feuille de papier collée où étaient copiés plusieurs vers de l'Odyssée. Ça, c'est plus cocasse. Et puis, est-ce le fait d'une pie ou même d'un filou de dessiner des images obscènes ? Pudique le brave officier devint écarlate. Et de les déposer sur la table de la vieille Lady Winterfield ? Tiens, il faudra me les montrer, ça m'amusera. Dites-moi, vous avez parlé de tout ça au docteur Neyra ? Il n'aurait pas soigné un toqué, un maniaque, personne. Et hochant la tête, j'essaie d'organiser une surveillance. Tous ces mauvais coups doivent s'accomplir pendant les repas ou plus probablement la nuit. J'ai alerté le maître d'hôtel, qui est depuis 20 ans dans la compagnie. Les hommes du personnel dont je suis le plus sûr. Personne n'a rien remarqué. Alors quoi ? Évidemment, c'est assez curieux. Il y a tous les éléments d'un beau roman policier. Quel dommage que vous n'ayez pas embauché Sherlock Holmes. Dites donc, commissaire, vous qui raffolez tant de doubles vues, de mystères et d'aventures, vous voilà comblé. Monsieur Levrault a un sourire contraint. Malheureusement, toutes ces histoires qui font si bien un feuilleton sont moins drôles quand on a la responsabilité d'un bateau. Vous vous figurez que les victimes commencent à s'irriter. Le commandant est très mécontent. Si tout ça n'est pas éclairci avant l'arrivée à Marseille, je serai mal noté. Moi qui, précisément, pouvais espérer un nouveau galon. Dites donc, monsieur Vineuil, vous allez m'aider. J'ai beau m'ingénier, tant dans des traquenards, multiplier soi-même les tournées nocturnes. Ah, bon, c'est cela. J'étais un peu surpris, je vous l'avoue, cette nuit, de vous rencontrer une heure aussi indue. Au moment où je suis allé fumer une cigarette sur le pont. Moi ? Non, voilà 3 nuits que je n'ai pas fermé l'œil. Pour une fois, j'ai pris un soporifique et dormi comme un loir. Mais qui sait ? C'est peut-être justement notre funeste mystificateur que vous avez croisé ? Oui, non, au fait, qui sait ? Peut-être. Écoutez, mon cher commissaire, voilà qui est entendu. Je m'enrôle de votre brigade de recherche et je me mets en chasse. Un peu apaisé, l'officier d'administration prend congé du littérateur. Le lendemain matin, quand il le rencontre, son regard trahit une telle détresse qu'avant qu'il ait ouvert la bouche, Jacques Vineuil pressent la catastrophe. Eh bien, c'est atroce. Je viens d'être mandé dans sa cabine par la vieille marquise d'Agas Calientes, une grande d'Espagne. Elle écumait. Il y avait de quoi. Son sac à main était plein de crottes de rats. 37. Je les ai comptées. Si le mauvais plaisant n'est pas découvert d'ici 48 heures, elle fera un éclat. Je suis fichu. Malgré la gravité des circonstances, l'écrivain ne peut retenir de pouffer de rire. Voyons, commissaire. Vous voulez voir le corps du délit ? Monsieur Levrault entraîne le romancier jusqu'à sa cabine. Sur sa table de travail, parmi un monceau de romans judiciaires et de traités de psychiatrie, de fioles et de boîtes à poudre, gît un somptueux sac en brocart ancien doublé de soie. Point de doute sur la nature de son contenu malodorant. Hein ? Qu'en pensez-vous ? Et le malheureux supplie avec un redoublement de détresse. Mon cher maître, Ayez pitié de moi. Vous ne voyez aucun indice, vous n'avez aucun soupçon. » Et seulement pour calmer l'excellent homme, a-t-il une idée de derrière la tête, Jacques Vineuil lui frappe sur l'épaule. « Cher ami, ne désespérez pas. Écoutez-moi. Je suis très mal dans ma cabine pour travailler, et la Suissesse qui pianote sans relâche rend le salon à écrire intenable. Or, je ne puis rassembler mes idées que la plume à la main. Voulez-vous me laisser une heure durant me recueillir dans votre cagna et me permettez-vous d'y revenir demain vers 9 heures? D'ici là, faites-moi tenir par Joseph, le maître d'hôtel, au courant de ce qui pourra survenir. Il n'est pas impossible que dans les 24 heures se vérifie une hypothèse qui aurait de quoi vous apaiser. Ah, mon cher maître, attendez, ne précipitons rien. À demain. Au bar, à 11 heures, si vous voulez. » Le lendemain, à 11 heures, les yeux battus, se rongeant les poings, M. Levrault attend avec fièvre le romancier. Il a eu une nuit atroce, un réveil pire. À peine les yeux ouverts, Joseph est venu lui apporter cette effrayante nouvelle. En se levant, le professeur hollandais von Petrogram n'a plus retrouvé son dentier dans le verre d'eau où il trempait. Il fulmine et rage comme l'Espagnol en personne. M. Levrault sent sa tête se perdre. Du moment que Jacques Vineuil n'est pas là, il est bredouille. Autant finir. Il songe au suicide. Tiens, voilà l'écrivain. Bah, qu'espérer ? Impitoyable rictus sur les lèvres, l'infortuné se soulève, balbutie faiblement. « Bonjour, mon cher maître. Un cocktail, un porto. »« Merci, cher ami. Je crois qu'il serait préférable que nous allions causer dans votre cabine. » L'officier pâlit. « Vous ne voulez pas dire que vous avez découvert... » L'homme de lettres envisage son interlocuteur avec un mélange de gaieté et de commisération. « Je crois pouvoir vous affirmer que tout est éclairci. » Les deux hommes sont assis face à face dans la cabine de l'officier. D'une voix qu'il essaye en vain de raffermir, M. Levrault balbutie. « Alors, vous croyez vraiment ? Où est-il ? Quand le coffre ? À la salle de police ou à l'infirmerie ? Un fou, un maniaque, un malfaiteur ? Rien de tout cela. Mais écoutez-moi. » Le romancier se recueille et reprend posément. « Vous savez ce que c'est qu'un somnambule ? Bien. Vous savez aussi ce que c'est que l'hypnose, la suggestion. Sous l'influence d'une névrose, d'une disposition maladive, voire d'une volonté étrangère, on a vu des gens accomplir les actes les plus étrangers à leur nature. Bon, vous savez aussi les bizarres paroles, les gestes incongrus qui, dans le délire, échappent aux personnes les plus respectables. J'ai connu un vertueux ecclésiastique qui, saisi d'une forte fièvre, tenait des propos à faire rougir un chimpanzé. Enfin, vous savez également ce que c'est que la kleptomanie. On a eu beaucoup de peine, l'autre hiver, a étouffé l'aventure d'un membre de l'Institut qui volait dans les grands magasins. Donc il est pertinent que, sous l'influence d'excitations diverses, encore mal déterminées, les individus les plus impeccables, les mieux qualifiés, se livrent à des actes inconsidérés et même, ceci a été particulièrement noté, accomplissent ces actes non seulement d'une manière parfaitement inconsciente, mais avec de surprenants raffinements de dissimulation. Soit, je comprends, mais où voulez-vous en venir ? À ceci, c'est que si par aventure un personnage du bord, complètement insoupçonnable, aussi bien de par ses fonctions que de par son caractère, échappant par suite à toute surveillance, se trouvait victime d'un accident de santé, par exemple d'une insolation consécutive, un grand surmenage, et la lecture assidue d'Alan Kardec et de Conan Doyle, rien ne serait plus plausible que de subodorer en lui l'auteur responsable de ces facéties. L'homme pâlit, il éructe. Vous ne voulez pas dire que... Je veux dire, mon cher commissaire, que si vous exigez d'être enfermé à clé chaque soir dans votre cabine, toutes ces originalités disparaîtraient comme par enchantement. Le malheureux s'effondre puis se révolte. « Mais c'est impossible, c'est vous qui êtes fou. Pardonnez-moi, mon cher maître, mais comment admettre ? » ?»« Calmez-vous, rien de plus simple. » Un peu perplexe au premier moment, je l'avoue, j'ai entrevu la lumière dès l'instant où, avant-hier, vous m'avez affirmé n'avoir pas bougé la nuit précédente de votre lit. Or, ne protestez pas, j'étais sûr de vous avoir rencontré pour cette excellente raison que nous avons causé ensemble. Oui, je vous ai dit, tiens, c'est vous, commissaire. Vous m'avez répondu, pour vous servir. Et vous vous êtes éloigné. C'était peu, assez pour fixer mes conjectures. C'est pourquoi j'ai cru pouvoir me permettre hier matin une perquisition dans votre cabine. Après votre départ, il ne m'a fallu que quelques minutes pour découvrir, sous une latte légèrement soulevée de votre parquet, les lunettes que voici. Et ensuite quelques dessins de la même facture, mes compliments. Que ceux qui ont scandalisé la respectable Lady Winterfield. Cette dernière nuit, je vous ai suivi. Vous aviez enfilé des chaussons de lisière, filiés comme un chat dans les corridors. Vous vous êtes arrêté devant la cabine du professeur von Petrogrom. Ayant vérifié, il ronflait comme un orgue. S'il dormait effectivement, vous y avez pénétré et en êtes sorti en portant un objet que je n'ai pu identifier. Mais la première heure, j'ai été éclairé par la déposition de Joseph. Vous êtes à même de le restituer à son propriétaire comme vous le voudrez, puisque le voici. Et de la même cache, les mules de Sherlock Holmes extraient un dentier d'excellente fabrication. Êtes-vous convaincu ? Le commissaire a écouté cet amas de révélations, la bouche bée, pâlissant et rougissant tour à tour. Il demeura accablé. Vous me voyez confondu. Quoi ? Ces vols, ces imaginations obscènes et saugrenues, ce raffinement dans le baroque et les précautions, les crottes de rats ? Ne vous frappez pas. Précisément, dans son beau livre sur les fantaisies de l'inconscient, le professeur Vaudreuil de l'Académie de médecine nous rapporte que sous Louis XV, une duchesse, accusée d'ailleurs de sorcellerie, en dévorait. Mais le malheureux n'a plus la force d'esquisser un sourire. Il murmure faiblement. « Je suis perdu. Il me reste. » Le romancier l'interrompt. « Ne dites pas de bêtises. Il ne nous reste qu'à aller trouver ensemble votre excellent ami, le docteur Neyra, qui va vous trouver un régime sédatif et émollient, quelques drogues, un peu d'hydrothérapie, et l'histoire sera finie. » Discrètement, les passagers lésés furent le jour même individuellement informés que les auteurs de ces déplorables manigances avaient été découverts et sévèrement châtiés. On préférait, pour la tranquillité du bord, étouffer l'affaire. Tous les larcins étant réparés, et le commandant lui-même ayant su, avec son tact ordinaire, satisfaire par ses excuses personnelles l'amour-propre de chacun, les humeurs se détendirent. Dans le soulagement général, on fut pris de remords d'avoir traité avec quelque injustice le si avenant commissaire. La duchesse d'Agas Calientes et le professeur von Petrogrom tinrent en particulier à venir lui faire leurs excuses. Il les reçut avec sa bonhomie ordinaire. Toutefois, il semblait conserver une gêne, une sorte de mélancolie. Elle ne le quitta pas jusqu'au débarquement. En prenant congé de lui, il adressa au romancier une suprême requête. « Mon cher maître, je compte de votre part un dernier bon procédé. Vous me jurez de garder pour vous toute cette histoire. » L'autre jura. C'est pourquoi les 900 000 lecteurs de ce périodique sont priés de n'en souffler mot à personne. Ainsi s'achève l'énigme du Pierre Mille par André Lichtenberger.